Bonsoir et bienvenue dans le temps du débat jusqu'à 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, qui veut vraiment d'une république exemplaire ? C'est François Hollande qui, lors de la campagne de 2012, avait fait de cette expression un programme. Et puis, il y a eu l'affaire Cahuzac, ministre du budget aux comptes cachés à l'étranger, depuis condamné pour fraude fiscale. Avait alors été créée la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, celle-là même qui a saisi la justice il y a à peine plus d'une semaine dans l'affaire Jean-Paul Delevoye. Affaire, un mot qui semble collé au personnel politique comme un sale sparadrap. Affaire, mot valise aussi, qui regroupe, sous un même terme, une grande diversité de cas. Le résultat, nous le connaissons, défiance, soupçon, rejet, sentiment que ça ne changera donc jamais. On ne se souvient pas toujours du détail, mais à la fin, c'est la confiance dans les institutions elles-mêmes qui est abîmée. Alors que faire ? Est-ce une question de loi, de moralité, de mentalité, de société ? Et jusqu'où pousser l'exigence de transparence ? Pour en débattre avec nous ce soir, Belir Nabli, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Est Créteil, auteur du livre « La République du soupçon » publié en 2018 aux éditions du Cerf. Lauriane Rossi, bonsoir.
Bonsoir.
Députée La République En Marche des Hauts-de-Seine, questeur de l'Assemblée, vice-présidente de l'équipe parlementaire de l'Observatoire de l'éthique publique. Jean-Christophe Picard avec nous à distance, également président de l'association Anticorps, bonsoir.
Bonsoir.
Votre livre « La colère et le courage, plaidoyer contre la corruption pour une république éthique » paraîtra le 15 janvier chez Armand Collin. Et David Gailloux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'un des 5 administrateurs de l'association Regards Citoyens.
Mon angoisse, c'est de voir aujourd'hui la remise en cause de la confiance dans la décision publique parce qu'il y a un manque d'éthique et un non-respect à l'éthique. Mais c'est vrai aujourd'hui sur l'ensemble d'un certain nombre de comportements qui se doivent d'être exemplaires. L'exemplarité est aujourd'hui un élément de construction de la confiance. La transparence est aujourd'hui aussi quelque chose de tout à fait déterminant.
C'est Jean-Paul Delevoye que nous venons d'entendre, archive de 2010 au Sénat. Il était alors médiateur de la République, l'ex-haut-commissaire aux retraites est désormais visé par une enquête préliminaire qui porte sur les faits de déclaration incomplète de ses intérêts à la Haute Autorité et sur les conditions de cumul de rémunération d'un emploi public et d'une rémunération privée. Belir Nabli, l'exemplarité, c'est pour les autres ?
Non, l'exemplarité dans son principe n'est discutée par aucun responsable politique, naturellement. C'est un principe qui va de soi et en réalité, il s'inscrit même dans la tradition républicaine. La Révolution française, les révolutionnaires de 1789 ont mis en avant l'idéal de l'exemplarité, notamment à travers cette valeur qu'est la vertu, qui doit être inhérente à tout responsable politique et à tout agent public même. Il suffit de relire la déclaration de 1789. Le problème, c'est que derrière les discours et derrière même, et au-delà, des lois et textes en général qui ont été adoptés depuis, allez, disons, 2013, en réalité, les responsables politiques n'ont pas pris assez de recul pour saisir véritablement ce que signifie culturellement, c'est-à-dire en termes de mœurs, en termes de mode d'action publique, en termes également de signification de l'intérêt général et de l'incarnation de l'intérêt général, cette prise en considération de la philosophie de l'exemplarité, elle n'est pas complètement saisie par les acteurs actuels, d'où les contrastes ou du moins les décalages entre les discours, les textes et les comportements.
Alors les discours, ce sont aussi les réactions que l'on a quand on est, comme Jean-Paul Delevoye dans ce cas-là, accusé ou en tout cas mis en cause. Lauriane Rossi, dans ce cas présent, il y a donc désormais une enquête. Mais comment expliquer qu'il puisse encore y avoir aujourd'hui une telle négligence, une forme de légèreté au minimum dans la façon dont cette déclaration d'intérêt a été remplie et dans la défense aussi de Jean-Paul Delevoye sur le mode de l'erreur, de l'oubli. N'y a-t-il pas là, je dirais rien que là, quelque chose d'assez ravageur ?
Au-delà du départ, hein, qui était inéluctable, il faut le dire, de Jean-Paul Delevoye du gouvernement, moi je vois deux limites, en tout cas, premièrement, la limite finalement du contrôle de la HATVP.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Tout à fait, auprès de laquelle tout élu, local ou national, se doit de faire une déclaration d'intérêt, c'est-à-dire de l'ensemble de ses revenus, perçus au titre de ses différentes fonctions professionnelles, associatives, etc. Et puis une déclaration de patrimoine, qui, elle, est actualisée à la fin de chaque mandat pour vérifier justement s'il y a eu enrichissement ou pas au titre du mandat. Nous voyons bien que ce contrôle est très limité puisqu'il se base finalement sur une déclaration, hein, des éléments purement déclaratoires, et que dans le cas de Jean-Paul Delevoye, lui affirme avoir été de bonne foi. La HATVP, elle, indique n'avoir pas les capacités d'effectuer un contrôle plus poussé. Donc on est face là à la première limite. Et la deuxième limite, c'est tout simplement l'absence de déontologue au niveau du pouvoir exécutif, au niveau du gouvernement. Le Parlement, et notamment l'Assemblée nationale, s'est doté d'un déontologue en 2011. Ses pouvoirs se sont renforcés. Ce déontologue a un pouvoir de contrôle, contrôle des frais de mandat, un pouvoir de conseil, d'information. Il faudrait, c'est la proposition que nous faisons avec l'Observatoire de l'éthique publique.
Vous l'avez faite dès cet été, je précise, et donc ça n'a rien
tout
donné
à fait,
depuis.
Nous l'avons formulé juste après l'affaire de Rugy. Et nous avions interpellé le Premier ministre sur ce sujet en disant il faut installer un déontologue au niveau de l'exécutif pour être en capacité d'informer dès la prise de fonction un membre du gouvernement et de le conseiller de manière vraiment professionnelle, mais aussi peut-être plus discrète que par voie de presse ou sous la vindicte populaire, pour l'orienter et lui permettre de faire les déclarations les plus transparentes et fidèles à la réalité possible, évidemment.
Donc vous l'avez proposé cet été, mais il n'y en a toujours pas. Jean-Christophe Picard, on imagine bien que cette affaire Delevoye, elle représente à plusieurs égards ce contre quoi vous luttez avec Anticor. Néanmoins, je voudrais vous soumettre l'analyse d'une autre association, Transparency International, dont la responsable de plaidoyer estimait il y a quelques jours dans Le Monde qu'elle était aussi, cette affaire, le signe d'une avancée de la culture de la transparence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Écoutez, pas vraiment, parce que quand je vois déjà qu'aujourd'hui un membre du gouvernement n'arrive pas à transmettre dans les temps une déclaration d'intérêt, qui est quand même pas un document très compliqué à remplir, il n'arrive pas à remplir correctement ce document, il continue à exercer une activité privée avec son activité de membre du gouvernement, ce qui est strictement interdit par la Constitution. La Constitution, j'imagine que quand même, il l'a lu au moins une fois dans sa vie. Et que je vois qu'on nous dit que c'est pas grave, qu'il n'y a pas mort d'homme, que finalement c'est la faute de la HATVP. Vous voyez, on fuit toujours les responsabilités, alors que clairement, il y a eu des manquements qui sont des manquements graves. Et je remercie, moi, la HATVP d'avoir, comme l'avait demandé Anticor, saisi le parquet, parce que c'est pas uniquement des omissions, il y a également des choses qui posent problème, il y a des cumuls d'activités qui posent problème, il y a même parfois une rémunération qui pose problème, puisque M. Delevoye a touché plus de 6 000 euros par mois. On est pour une fonction de président d'honneur, donc moi, a priori, président d'honneur, si je sais ce que ça veut dire que c'est honorifique, donc 6 000 euros par mois pour une fonction honorifique, ça pose problème sur la réalité du travail. Donc moi, j'ai quand même l'impression que ça ne bouge pas. Rappelez-vous l'affaire Péloff-Fillon, la classe politique était sidérée qu'on leur reproche finalement de faire ce que tout le monde avait fait pendant tant d'années, d'embaucher les femmes, les maîtresses, les enfants. On avait vu déjà en 2017 la classe politique sidérée, et je vois bien qu'avec M. Delevoye, ça n'a pas bougé. La classe politique est toujours étonnée que finalement les citoyens ne soient pas complètement satisfaits, alors que eux ne voient pas le problème. Ils ne voient pas le problème de travailler à la fois pour une société privée, de continuer à avoir des fonctions au gouvernement, de faire la loi tout en étant payé par on ne sait qui pour faire on ne sait quoi. Et on voit bien qu'il y a un manque de prise de conscience. Ce qui est vraiment très étonnant, parce que cette majorité qui est arrivée, elle est arrivée avec le dégagisme, avec les gens en ont eu assez des anciennes pratiques. Et on voit bien que cette nouvelle majorité fait à peu près comme les autres. C'est ça qui est très très décevant. C'est pas qu'ils soient pires, c'est qu'ils font comme les autres. Alors justement, on les a mis au pouvoir là. Enfin, la population, la majorité des Français ont décidé de les élire, de les mettre au pouvoir, justement pour que ça change. Donc il y a une vraie déception. Et moi, j'ai pas le sentiment que ça change beaucoup.
Alors les citoyens, justement, parlons-en avec vous, David Gayou. Vous êtes donc administrateur, l'un des 5 administrateurs de cette association Regards Citoyens, qui est derrière notamment le site nosdéputés.fr, nossénateurs.fr, qui propose comme ça un gros travail sur des données publiques, de mieux informer les citoyens sur l'activité des députés, des sénateurs, aussi sur la façon dont se construit la loi. Cette association, elle a été fondée il y a une dizaine d'années, en 2009-2010. Vous, de là où vous êtes, est-ce que vous avez l'impression que l'on progresse dans cette culture de la transparence?
On progresse à petits pas. C'est-à-dire que au moins, on a pu avoir cette déclaration d'intérêt. Cette déclaration d'intérêt, donc, elle vient des lois Cahuzac. Nous, à Regards Citoyens, c'est un sujet qui nous avait beaucoup mobilisés à l'époque. On avait participé au travail d'écriture de la loi en tant que citoyen. Donc, on a été intervenu auprès du gouvernement, auprès de l'Assemblée pour ces différentes choses-là. Et notamment, c'était beaucoup battu pour obtenir que les déclarations d'intérêt des députés puissent être rendues publiques. Et que ça soit publié en open data. Sur ces choses-là. Donc le fait que maintenant les déclarations d'intérêt soient rendues publiques, ça nous permet au moins de pouvoir aller voir et d'aller regarder effectivement la différence entre le déclaratif et puis malheureusement quand on découvre que le déclaratif il n'a pas été fait correctement, de pouvoir au moins aller déstabiliser le responsable politique en place qui a fait preuve de négligence ou de légèreté dans la façon de remplir cette déclaration-là. Mais Le fond du problème, c'est vraiment de rétablir une confiance, parce que on constate que la confiance entre les institutions démocratiques et les citoyens qui votent est quand même vraiment faible en ce moment, que ce soit soit par des actes de violence ou sur des propos dans les réseaux sociaux ou par l'abstention au moment des votes, et que on a peut-être un peu plus de moyens pour mettre en difficulté les personnes qui sont en défaillance de moralité, mais on voit toujours autant d'affaires arriver et il y a toujours une espèce d'incompréhension des principaux acteurs au moment où ils se font reprocher certaines actions avec une forme de tout le monde le fait, je vois pas pourquoi, je vois pas quel est le problème, c'est une légère culpabilité.
Il y a cette question, effectivement, ce sentiment qu'il y a toujours plus d'affaires Bélir Nabli. En même temps, on peut aussi se dire peut-être que c'est parce que les faits dont il est question sont davantage connus et moins acceptés. C'est peut-être une vision optimiste des choses, mais on peut l'interroger.
Alors, vous avez raison de souligner peut-être ces aspects positifs, que sont premièrement la baisse de la tolérance sociale et démocratique à l'égard de tels comportements. On a des chiffres qui attestent du fait que nos concitoyens, et c'est pas propre aux Français, hein, c'est quelque chose qu'on a constaté également aux États-Unis, nos concitoyens acceptent beaucoup moins ce type de défaillance en matière de probité et de moralité, qu'il y a même une montée en puissance de l'impératif d'exemplarité, le tout parallèlement à ce sentiment également croissant de défiance à l'égard des institutions et de la parole publique. Donc, vous avez d'abord cet élément. Et puis, de l'autre, vous avez également comme élément positif, entre guillemets, le fait que, en tant que citoyen, on a accès à ce type d'informations désormais, y compris à l'égard de ce type d'infraction à la loi. Je dis cela parce que ces informations ne tombent pas du ciel. Elles ne sont pas données. C'est le plus souvent le fruit de la combinaison de différents types de contre-pouvoirs. Les médias, en tous les cas, certains médias, ceux qui effectuent encore un travail d'investigation. Deuxième source de contre-pouvoir, des associations comme Anticor. Et enfin, troisième source de contre-pouvoir, ou du moins de pouvoir institutionnel qui joue un rôle de contrôle des acteurs politiques, même si ce n'est pas leur rôle premier, les juges. Et la combinaison de l'action respective de chacun de ces contre-pouvoirs nous permet de bénéficier d'un droit de savoir beaucoup plus large par rapport à ce type d'éléments. C'est pour ça qu'il faudrait faire attention vis-à-vis de la sensation qu'on pourrait avoir par rapport à ces affaires. Il n'y a pas forcément plus d'affaires. Il y a plus d'affaires révélées, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais c'est une manière aussi de dire que c'est un élément positif que d'avoir accès à cette information-là sur l'un des maux de notre démocratie.
Lauriane Rossi, je voulais revenir avec vous parce que vous en avez parlé, et puis voilà, on a beaucoup parlé de cette haute autorité pour la transparence de la vie publique. On parlait de ses moyens, effectivement. Pour les chiffres de 2018, la haute autorité pour la transparence de la vie publique, c'est 52 agents pour 5787 déclarations de patrimoine et d'intérêts reçues. Effectivement, ça paraît assez dérisoire. Est-ce qu'il ne faut pas, si vraiment on veut jouer le jeu, augmenter les moyens de cette haute autorité?
la question des moyens de cette haute autorité peut se poser. Évidemment, je voudrais juste réagir sur ce qui vient d'être dit précédemment et je souscris à une bonne part des propos qui ont été tenus sur la culture déontologique. Évidemment, on a encore énormément de progrès à faire pour installer cette culture de la déontologie à l'échelle de l'exécutif. Moi, j'ai envie de dire en tant que députée, en tant que questeur de l'Assemblée nationale, que cet enjeu déontologique, les députés se le sont appropriés et nous sommes...
Je fais une parenthèse, pardon, pour questeur. Questeur, ça veut dire que vous pilotez le budget de l'Assemblée, voilà, avec deux autres députés.
Tout à fait. Et j'ai eu, en tant que questeur, avec mes deux autres collègues questeurs, la lourde mission que de mettre en place le contrôle des frais de mandat au tout début de notre arrivée aux responsabilités, donc début 2018. Nous avons mis en place le contrôle des frais de mandat qui est géré par la déontologue. Et puis, nous avons adopté bon nombre de mesures qui vont vers plus d'exemplarité. Je pense à la fin du régime spécial de retraite que nous avons aligné, le régime de retraite des parlementaires, enfin des députés.
Des députés.
Les sénateurs n'ont pas encore franchi le pas. Celui des députés, en tout cas, est aligné sur le droit commun, l'aide au retour à l'emploi, donc l'allocation chômage des députés également, le contrôle des frais de mandat à l'euro près sur justificatif, ça n'existait pas auparavant, il n'y avait aucune règle, nous les avons instaurées, nous avons supprimé les avantages des anciens présidents, les facilités de transport des anciens députés, les frais d'obsèques des anciens députés, bon nombre de mesures qui de toute façon étaient d'une part indispensables évidemment, parce que il s'agissait d'avantages exorbitants du droit commun qui ne se justifiaient plus, et d'autre part dans la droite ligne de notre engagement vis-à-vis des Français qui consistait justement pour rétablir cette confiance, pour lutter contre cette défiance, eh bien aller vers plus d'exemplarité, plus d'éthique. Alors il faut continuer évidemment, il faut continuer, y compris à l'échelon local, on en parle assez peu, moi c'est l'un de mes combats, la culture déontologique dans les collectivités territoriales où il subsiste encore de bon nombre de zones d'ombre extrêmement préoccupantes. Donc il faut continuer, aider évidemment par les associations aussi et les médias qui font leur travail, il faut le dire. Il y a moins d'affaires qu'avant, c'est vrai, ça a été dit à l'instant, sauf qu'elles sont peut-être davantage révélées, effectivement. Et puis surtout, il y a des règles qui n'existaient pas auparavant. À partir du moment où vous avez des règles, quand vous y dérogez, il y a peu de cas par chance, mais enfin quand vous y dérogez, eh bien ça se sait et il faut qu'il y ait des sanctions. Mais avant, il n'y avait pas de règles.
On va reparler du rôle des uns et des autres, les médias, les associations, etc. Bélir Nabli, je voulais quand même... revenir sur ce terme, la République du soupçon, qui donne son titre à votre livre. La République du soupçon, c'est celle qu'Emmanuel Macron avait dénoncée début 2018, notamment en évoquant les cas de Gérald Darmanin et Nicolas Hulot, visés par des plaintes classées sans suite ou prescrites. Ces jours-ci, on entend beaucoup de commentaires sur les vacances assez frais d'Elisabeth Borne à Marrakech. Où est la frontière en matière de transparence? Est-ce qu'il y a une frontière? Et en fonction de quoi doit-elle être posée?
C'est une question extrêmement légitime. Alors, l'idée de soupçon, elle est intéressante d'abord parce qu'elle permet de souligner qu'aujourd'hui, ce qui pèse sur les responsables politiques, c'est une présomption de culpabilité, donc de corruption, etc. Et non pas une...
Par principe, on pense qu'ils le sont, c'est ça.
L'idée de présomption, ils sont présumés corrompus. Il suffit notamment de regarder, vous avez une enquête annuelle produite par le CEVIPOF, le Centre de Recherche de Sciences Po, sur la confiance politique, avec des chiffres édifiants sur la représentation de la politique et du politique chez nos concitoyens. Et les idées qui viennent en premier, c'est la méfiance et le dégoût.
Le dégoût.
Et pour répondre plus directement à votre question... la question de la frontière, là encore, elle ne sera pas résolue strictement par les textes de loi, mais elle est du ressort du culturel. Je vous donne un exemple. A priori, il y a un consensus autour de l'idée suivant laquelle ce qui relève de la vie privée ne relève pas précisément du droit de savoir des citoyens. Sauf que la conception même de l'intime et de la vie privée est une sphère aux frontières évolutives, souples et culturelles. Aux États-Unis, cette frontière, elle n'existe pratiquement pas s'agissant des responsables politiques. Leur vie privée fait partie de leur vie publique parce que les citoyens considèrent qu'ils ont le droit de savoir, pour apprécier la qualité du responsable politique en question, de connaître donc leur vie privée, vie familiale, etc., y compris leur sexualité. Je le dis, tout en précisant aussi que c'est pas une donnée absolue. C'est relativement nouveau, y compris aux États-Unis, parce qu'on a l'impression, on aime bien citer les États-Unis comme contre-exemple et comme spectre à l'évolution française. Mais aux États-Unis, cette immixtion de la vie privée dans l'appréciation de la qualité d'un responsable politique, c'est relativement nouveau. Ça date des années 80, fin des années 70. Voilà. En France, on n'a pas encore franchi complètement le Rubicon, mais là, l'évolution, elle est là. Il suffit ici de... Alors le précédent historique, on le connaît, c'est la question du rapport entre Mazarine Pinzot, la fille du président Mitterrand, et le président en exercice, y compris aussi s'agissant de son état de santé. On est passé du secret absolu finalement l'information. Mais voyez bien comment, en dépit de cette transgression historique, la question de la santé du chef de l'État en particulier demeure malgré tout, fait encore partie de ces secrets d'État entre guillemets, au sens non juridique, parce que je le dis parce qu'en même temps, si vous jetez un coup d'œil sur pas mal des promesses de campagne des candidats à l'élection présidentielle, vous avez ce type de mesure maintenant qui a fait irruption sans que l'engagement ne soit forcément tenu une fois le candidat élu.
Jean-Christophe Picard, au cœur de votre combat avec Anticor, il y a la lutte contre la corruption. Au-delà de cette question, considérez-vous qu'il peut y avoir des dérives, comme certains disent, des dérives avec la transparence?
Oui, ça peut être instrumentalisé, effectivement, notamment dans le cadre de campagne électorale. Par exemple, bon, les vacances de Mme Borne, ça choque pas ni moi ni Anticor. Je crois qu'il y a suffisamment de motifs d'être choqué, pour ne pas être choqué tout le temps, partout, pour tout. Voilà, il faut bien doser effectivement les problèmes et consacrer du temps aux problèmes importants et non pas à des broutilles qui polluent le débat et qui parasitent le débat. Après, la transparence, encore une fois, vous avez bien commencé le débat tout au début, c'est-à-dire oui, c'est en gros on veut la transparence pour les autres mais pas pour soi. C'est quand même important en France. On n'a pas encore vraiment atteint le niveau de transparence que peuvent avoir les pays scandinaves et qui sont quand même à la pointe sur la question. Et on se rend compte de la corrélation entre un haut niveau de transparence, un faible niveau de corruption, et ce sont des pays où, comme par hasard, les gens se sentent le plus heureux. Il y a une sorte d'indice chaque année, l'indice de bonheur, et ce sont les pays scandinaves qui sont chaque année dans ces pays-là où les gens sont le plus heureux, parce que justement il y a une bonne redistribution des richesses, il y a peu d'argent perdu avec la corruption, la fraude fiscale, grâce à la transparence. Donc cette transparence, elle a un intérêt quand même, hein. C'est pas seulement du voyeurisme, c'est que cette transparence amène une diminution des abus, il amène une meilleure utilisation de l'argent public, et donc c'est dans l'intérêt évidemment des citoyens qui sont aussi des contribuables.
L'affaire Schuller peut vous faire perdre les élections?
Non.
Sûr?
Ah ouais, j'en ai vu d'autres, hein. Mary et sa cassette, là. J'ai dit abracadabrantesque, et deux jours après, plus rien. Pareil pour mes billets d'avion liquide. J'ai dit pssst, et fini. Et Sirvin, il voulait faire sauter la République 200 fois. Ça a fait blop, son histoire. Alors Schuller, ça fera chebam, et c'est tout.
Chebam.
France Culture.
Ah oui, pour moi, les affaires, ça fait...
Le temps du débat.
Pssst, blop. Shabam.
Chloé Cambrelin.
Well.
18h43, qui veut vraiment d'une république exemplaire ce soir dans le temps du débat, archive des guignols de l'info, Jacques Chirac et les affaires. C'était en 2002, Jacques Chirac également présenté sous les traits de super menteur par les guignols. Bélir Nabli, il y a cette exigence d'exemplarité de plus en plus exprimée par les Français, et en même temps, il y a des personnalités politiques qui ont été mises en cause, parfois condamnées, et qui soit se font malgré tout réélire, soit conservent en tout cas une certaine cote de popularité. Est-ce qu'il y a là un paradoxe?
Oui, c'est un paradoxe, mais encore une fois, le vrai phénomène prégnant, c'est la montée de l'intolérance ou la baisse de la tolérance sociale et démocratique de nos concitoyens à l'égard de ce type de comportement. Et l'exception ou les exceptions, pour aller vite, du rapport, par exemple, entre les usagers ou les administrés de Pont-le Valois, c'est ça,
et Levallois-Perret.
Le Levallois-Perret et le couple Balkany, ça reste véritablement, ça relève encore de l'exception, et une exception d'autant plus notable que le contexte est précisément s'inscrit précisément dans une tendance inverse. Ce qui est important également, c'est plutôt, je pense, hein, c'est que la dernière séquence à laquelle nous avons vécu, c'est au contraire le fait que des responsables politiques se sont retrouvés dans une situation de contradiction avec leur propre posture. Vous avez commencé l'émission par une déclaration forte de Monsieur Delevoye. Il faut rappeler qu'un personnage comme M. Bayrou est aujourd'hui mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics, alors même qu'il a construit une partie de sa carrière politique sur une image de la moralité. Il a eu un discours très fort qui a fait son identité politique. Or, aujourd'hui, il se retrouve dans une situation de contradiction très forte, à telle enseigne qu'il s'est quand même permis, dans une ultime sortie, de souligner le fait que, eh bien, malgré tout, la plupart des responsables politiques en France avaient des problèmes judiciaires. Autrement dit, il vient dans une forme de légèreté totale, de nier la gravité de sa situation en tant que responsable politique majeur et de banaliser finalement sa position.
David Gayoux, on l'a dit, je l'ai dit en introduction, on ne parle pas toujours de la même chose quand on dit affaire. Là, voilà, on vient de parler de François Bayrou. On peut parler aussi de Richard Ferrand, qui est mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne et qui est toujours président de l'Assemblée nationale. Et puis, il y a François de Rugy, redevenu député après avoir démissionné de son poste de ministre l'été dernier. Dans cette affaire, il n'y a pas de mise en examen, il n'y a pas d'enquête préliminaire, mais il y a eu notamment ces dîners informels organisés alors qu'il était président de l'Assemblée, ces photos de homards qui ont fait des dégâts considérable parce qu'elle symbolisait aussi une forme de déconnexion, non ? Allez-y, David Gayoux,
oui,
d'abord.
Ouais. Dans la question de de reconstruire la confiance avec les citoyens, il n'y a pas juste une question de est-ce que c'est légal ou est-ce qu'il y a eu un comportement pénalement répréhensible ou civilement répréhensible.
L'exemplarité, c'est aussi le comportement.
C'est aussi dans le comportement, c'est aussi dans l'approche par rapport aux choses. Et du coup, il est absolument pas choquant que des personnes soient obligées de quitter un mandat ou quitter une forme de responsabilité sans qu'il y ait eu de jugement rendu contre eux sur ces questions-là. C'est juste un ressenti général qui fait que la posture ou le comportement de la personne ne correspond, entache l'institution qu'il représente en incarnant le poste. Et c'est vraiment là où ça peut être, où ça devient problématique sur ces choses-là. Je voudrais juste rebondir sur la partie sur les frais de mandat dont a pu parler Lauriane Rossi, parce que nous, les frais de mandat chez Regards Citoyens, c'est un sujet sur lequel on était fortement sensibilisés. Notamment, on a fait une demande d'accès aux documents des différents frais de mandat sur la précédente législature, sur lequel on a quand même 10 députés des 577 qui nous ont transmis effectivement les relevés de compte de ces choses-là. On parlait également sur le fait de l'exemplarité du rapport au vote. Malheureusement, ces 10 députés qui étaient vertueux, qui ont du coup partagé ces documents-là, qui ont pu être vus par beaucoup de personnes, notamment un certain nombre de journalistes, ça n'a pas forcément été transcrit fortement au niveau des votes. Ils n'ont pas vraiment été réélus. Et c'est quelque chose qu'on peut être déçu sur cette approche-là. Et sur le mécanisme qui a été remis en place, alors maintenant, c'est plus de l'argent donné qui peut être dépensé n'importe comment, mais il n'y a absolument aucune transparence sur comment ce contrôle est fait. Et c'est des contrôles qui sont faits basés sur du tirage au sort en interne par des employés.
Le but étant que chacun soit contrôlé une fois durant le mandat, quoi.
Donc voilà, donc si le mécanisme a vocation à reconstruire la confiance reconstruire la confiance des citoyens par rapport à l'utilisation des frais de mandat, on n'est pas forcément dans un mécanisme qui aide dans cette approche-là. Nous, on continue notre action sur ces choses-là. On a déposé un recours auprès de la CEDH pour avoir accès aux documents des frais de mandat. On l'a déposé il y a 2 semaines.
Lauriane Rossi, au moment de l'affaire François de Rugy, et puis vous l'avez un peu fait tout à l'heure aussi, vous avez, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, parlé de vindicte médiatique, d'acharnement. Ça, c'est un champ lexical qui est souvent utilisé, mais effectivement, sans la presse, pas d'affaire Cahuzac et donc pas tout ce qui a suivi et donc pas de haute autorité, etc. Même l'affaire Rugy vous a conduit, et vous l'avez dit tout à l'heure, avec l'Observatoire de l'éthique publique, à faire des propositions. Donc, pourquoi aussi toujours ce discours réflexe un petit peu des politiques qui sont mises en cause à l'égard des médias, qui finalement vous amènent à faire des propositions qui vont dans le bon sens, et qu'ensuite vous vous félicitez d'avoir...
Oui, effectivement, à cette occasion, on a pu porter cette proposition de déontologue du gouvernement, mais je crois que l'affaire de Rugy est quand même très spécifique, c'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, vous avez un ministre qui décide, il a fait le choix, par solidarité vis-à-vis du chef de l'État et du Premier ministre, de quitter le gouvernement, alors même qu'aucun grief d'ordre judiciaire n'était fondé. D'ailleurs, il n'y a aucune enquête en cours. Tout a été...
On l'a dit, mais vous avez entendu David Gayoui.
La photo du dîner, que ce soit le logement présumé social qui n'était pas social, que ce soit l'indemnité de frais de mandat, tout a été dégonflé et démenti. Et donc, on était bien face à finalement un acharnement, je pèse mes mots, parce que dans le cas de l'affaire de Rugy, c'est quand même assez incroyable, un acharnement médiatique qui finalement a obtenu effectivement le départ d'un ministre, un ministre d'État, du gouvernement, alors même que rien n'était fondé. Pour autant, sur les questions de transparence, moi je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Moi-même, je publie mon agenda, je publie la ventilation de l'utilisation des frais de mandat, et là je vais répondre à Regards Citoyens sur la question des relevés bancaires. Donc je crois que sur la transparence, on peut aller plus loin, mais je dis attention à l'excès de transparence. Moi, je suis favorable à une transparence, mais tranquille, c'est-à-dire, évidemment, il faut continuer à être le plus transparent possible, mais je crois qu'il faut quand même se fixer des limites. Et puis surtout, on s'est fixé des règles, notamment concernant le contrôle des frais de mandat. C'est la déontologue de l'Assemblée nationale, qui est un personnage indépendant, qui gère ce contrôle, dont les modalités sont publiques. Le tirage au sort, les modalités de son contrôle ont été dévoilées publiquement. Elle rend un rapport chaque année sur son travail. Elle en rendra en début d'année 2020 sur le contrôle, les contrôles qu'elle a effectués. Et c'est à elle et elle seule que nous transmettons les relevés bancaires et l'ensemble des justificatifs, et charge à elle et son équipe de contrôler ensuite les frais des députés. Mais il ne s'agit pas évidemment de publier en open data les relevés des frais bancaires des députés et des justificatifs sans même pouvoir formuler une explication à côté, ce que je fais moi sur mon site internet en donnant la ventilation. Donc il faut être prudent, je pense, avec la transparence qui, dans ses excès et faute d'informations complémentaires, faute d'explications, peut susciter l'effet totalement inverse. C'est-à-dire qu'alors même que vous pensez qu'elle va créer de la confiance, elle suscite d'autant plus de défiance et de méfiance parce que les documents ne sont pas compris. Et les relevés bancaires ne sont pas des documents publics, juridiquement parlant, donc ils ne sont pas rendus publics.
Béguin Nabli, rapidement.
Oui, juste pour dire que l'affaire de Rugy, je ne suis pas favorable à sa banalisation. Elle a du sens. Elle a du sens notamment sur la difficulté à tracer une ligne claire entre ce qui relève de la vie publique et ce qui relève de la vie privée. Or, précisément, ce qui a été reproché à monsieur de Rugy en tant que président de l'Assemblée nationale, c'est que cette frontière, elle était pour le moins indéfinie et indéfinissable. Il organisait explicitement des dîners privés avec de l'argent public. Et à cette question-là, il n'a jamais pu répondre de manière très claire. Et je ne reviendrai pas sur les modalités de l'enquête administrative qui a été fomentée au sein de l'Assemblée nationale, mais pour le coup, la question de la confusion, alors pas forcément du conflit d'intérêts, mais de la confusion entre la vie publique et la vie privée dans l'intérêt d'un responsable politique, c'est ce qui instille de la défiance citoyenne.
Je voudrais aussi qu'on parle du rôle des associations et notamment de la Vôle, Jean-Christophe Picard, avec Anticor. Vous avez depuis la loi de 2013, je crois, contre la fraude fiscale, un agrément du ministère de la Justice qui vous permet en tant qu'association de déposer plainte avec constitution de partie civile pour les principaux délits d'atteinte à la probité. Il y a des affaires qui existent grâce à vous. C'est le cas de l'affaire Ferrand, que vous avez relancé après un premier classement sans suite. Cela vous a valu d'être qualifié de procureur privé, ou encore on vous a reproché d'avoir un poids disproportionné sur le fonctionnement des institutions. Comment est-ce que vous gérez ce poids et en fonction de quoi décidez-vous de porter plainte ?
Oui, effectivement, c'est un, vous l'avez rappelé, nous sommes agréés par le ministre de la Justice, qui est un énorme progrès, puisque désormais, lorsqu'un procureur enterre une affaire, une association agréée comme anticorps, hein, il y a également Sherpa ou Transparency, peut se constituer partie civile et forcer le déclenchement d'une instruction. Donc nous pouvons, pour dire les choses simplement, empêcher qu'un dossier soit enterré. Donc je pense que c'est un progrès démocratique. Alors ce qui est intéressant, c'est effectivement les réactions délirante que nous avons, que on nous reproche d'engorger les tribunaux, de nous mêler de ce qui nous regarde pas, de nous acharner. On dépose une plainte, c'est de l'acharnement à partir de une. Hein, bon, voilà. Donc il y a tout.
Mais comment est-ce que vous décidez sur quelles affaires vous allez ou non porter plainte?
Ah, mais nous décidons par rapport à la gravité des faits, par rapport aussi si on voit que les institutions ne fonctionnent pas. Par exemple, si le procureur poursuit, si les choses avancent, on va laisser le procureur avancer. Ça nous fait des économies de frais d'avocat. Mais si on voit que le dossier est enterré pour de mauvaises raisons, dans l'affaire Ferrand, on nous a invoqué la prescription. Donc on n'est absolument pas d'accord. D'ailleurs, on a abouti à une mise en examen, ce qui montre bien qu'on n'est pas les seuls à ne pas être d'accord avec cette interprétation de la prescription. Donc quand les institutions, quand les autorités compétentes fonctionnent, on laisse faire. Lorsqu'on voit que ça bloque, notamment pour les affaires politiques, nous sommes très vigilants et si le blocage continue, bien écoutez, nous portons plainte, nous utilisons notre agrément. Mais c'est quand même très intéressant de voir que, on va dire, les dirigeants aujourd'hui se soutiennent et sont à peu près tous unanimes pour critiquer anticorps, alors qu'il faudrait quand même peut-être critiquer ceux qui commettent des abus et des manquements. Ce sont eux qui portent atteinte à la confiance publique. C'est pas une association comme anticorps, évidemment, qui révèle les abus, qui portent atteinte. Au contraire, nous, on est là pour réhabiliter la confiance et réhabiliter la démocratie représentative. On est un petit peu déçus d'être, parfois, on se sent un peu seul dans ce combat. Et on a le sentiment que les principaux intéressés, comme les parlementaires ou les membres du gouvernement, ne sont pas avec nous dans ce combat. Ils sont plutôt pour étouffer ou pour l'opacité, mais pas pour justement sanctionner ceux qui trahissent la confiance publique.
Bélian Nabli, vous expliquez très bien dans votre livre qu'à force, la France a une législation fournie. Finalement, la matière, hein, transparence, moralisation, une vingtaine de lois et décrets adoptés en 20 ans. Mais, écrivez-vous, le défaut d'habitus déontologique chez nos responsables politiques demeure patent. C'est toute une culture politique qu'il faut changer?
Oui, c'est ça. C'est vraiment une question d'acculturation et de prise de conscience fondamentale. Et ce temps, enfin, ça demande du temps et ce temps n'a toujours pas été pris. Alors, l'intérêt de cette interrogation, c'est de se dire, mais c'est ce qui était promis par le Nouveau Monde. On nous avait bien dit, au début du nouveau quinquennat, que le Nouveau Monde politique devait s'accompagner précisément par de nouveaux comportements politiques. Or, cette promesse-là n'a pas été remplie. Au contraire, puisqu'il suffit de rappeler que vous avez une quinzaine de membres du gouvernement qui ont dû démissionner depuis le début du quinquennat, en grande partie pour des mises en cause judiciaires elles-mêmes liées à des mises en cause de probité. Et ce qui est intéressant, c'est que à cause de ces difficultés-là, vous avez une nouvelle source d'instabilité institutionnelle maintenant en France. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle source d'instabilité gouvernementale, ou en tous les cas ministérielle, du fait que nos responsables politiques n'ont toujours pas pleinement intégré ni toutes les nouvelles obligations légales, ni précisément un certain nombre de comportements, avec ce résultat qui consiste à dire pour un certain nombre d'entre eux « je ne vois pas où est le problème ».
Lauriane Rossi, un tout petit mot pour terminer sur cette promesse du Nouveau Monde. Vous allez continuer à essayer de faire en sorte de la tenir.
Oui, moi je veux dire que évidemment que les quelques affaires qui ont égrené ces derniers mois ne doivent pas occulter tout ce qui a été voté et fait en matière de transparence et d'exemplarité, et toutes les règles que nous avons votées. C'était d'ailleurs la première loi du quinquennat, cette loi pour la confiance dans la vie politique, qui interdit les emplois familiaux, qui encadre davantage les conflits d'intérêts, qui met en place cette avance sur frais de mandat, contrôlée, je l'ai dit, et puis toutes les décisions que nous avons prises à l'échelle du bureau de l'Assemblée nationale pour plus d'exemplarité. Donc, encore une fois, évidemment que tous les manquements à ces règles sont à condamner. Et bien sûr, la justice doit faire son travail. Moi, je crois aussi beaucoup à la présomption d'innocence, donc je suis prudente dans mes propos. Mais par ailleurs, attention à cette police de la morale, à cette police médiatique et à cette vindicte populaire qui peut parfois devancer et se tromper. L'affaire de Rugy l'a démontré face à des responsables publics et des élus qui sont parfois totalement honnêtes dans leur démarche, de bonne foi.
Et personne n'a dit tout ce pourri ce soir, évidemment. On est bien d'accord. Merci beaucoup. Lauriane Rossi, députée La République En Marche, vice-présidente de l'Observatoire de l'éthique publique. Merci David Gayou, Regard Citoyen. Toutes les initiatives qui sont associées, nosdéputés.fr, etc. sur le site regardcitoyen.org. Jean-Christophe Picard, La colère et le courage, à paraître le 15 janvier aux éditions Armand Collin. Et Bélir Nabli, La République du soupçon, publié aux éditions du Cerf. C'était le temps du débat. Antoine Tricot, Cyril Marchand, Rémi Baye, Fanny Richer, Hugo Boursier, Louise André à la technique ce soir, Louis Bardinet à la réalisation, Alexandre Manzanares.